Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonsoir à tous. Tout le monde reste au travail. Message de Jean-Michel Blanquer passé cet après-midi, alors que 13 millions d'élèves devront rester chez eux à partir de lundi. Premier cas de Covid-19 parmi les détenus, cas détecté à Fresnes, mais la chancellerie se veut rassurante. Les recommandations du docteur Véran, le ministre de la Santé déconseille les anti-inflammatoires qui pourraient aggraver les symptômes. État d'alerte en discussion lors d'un conseil des ministres exceptionnel en Espagne, mais les différents partis s'écharpent sur les mesures à prendre, alors que le pays compte 1500 cas supplémentaires de coronavirus en seulement une journée. Mobilisation de l'éducation nationale malgré les fermetures des établissements scolaires à compter de lundi. Nouveau message martelé cet après-midi par Jean-Michel Blanquer. Le ministre assure que l'enseignement à distance a été préparé. Il a indiqué que la plateforme Ma Classe à la Maison avait reçu 200 000 inscriptions en quelques heures. Jean-Michel Blanquer qui a insisté sur l'absolue nécessité de ces mesures drastiques qui concerneront des millions de familles dans deux jours.
La situation que nous vivons est inédite, chacun le mesure bien. Mon premier message s'adresse à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, qui depuis vendredi matin et durant tout le week-end sont au travail pour organiser la continuité des apprentissages des élèves. C'est ce travail, en ce moment même, qui nous permet de communiquer directement avec les familles. Soit elles ont déjà été contactées, soit elles le seront au cours des prochaines heures et jusqu'à lundi. Lundi, et jusqu'à nouvel ordre, 13 millions d'élèves vont rester chez eux. Nous mesurons combien cette décision, qui est indispensable pour protéger tous les Français, peut entraîner des difficultés dans l'organisation des familles. Le gouvernement met tout en œuvre pour les accompagner. Nous devons être vigilants à ne pas exposer nos aînés ou des personnes fragiles à la proximité des enfants qui, comme vous le savez, peuvent porter le virus sans présenter aucun symptôme.
Et autre nouvelle du gouvernement, elle concerne Brune Poirson. La secrétaire d'État à la transition écologique a été détectée positive au coronavirus. Son cas ne présente aucun signe de gravité, assure son entourage. Mais une autre annonce de cas de Covid-19 faite cet après-midi inquiète beaucoup plus. Un détenu de Fresnes, âgé de 74 ans, a été infecté. Il s'agit du premier cas en prison. Dans cet établissement pénitentiaire du Val-de-Marne, en région parisienne, le taux de surpopulation carcérale était il y a un peu plus d'un an de 183%. Pour autant, selon la chancellerie, il n'y aurait pas de raison de craindre une contagion massive vu les conditions de détention particulières du septuagénaire. Les précisions d'Emmanuel Leclerc.
Oui, il était arrivé le 8 mars dernier à Fresnes et déjà il avait des problèmes respiratoires selon des surveillants de la maison d'arrêt francilienne. Il avait été placé directement en cellule individuelle, en quatorzaine, à l'écart des autres détenus avant son transfert à l'hôpital au vu de l'évolution de son état de santé. Selon la porte-parole du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, un dispositif de suivi a été mis en place à Fresnes pour tous les personnels qui ont été en contact avec ce détenu septuagénaire. Les syndicats pénitentiaires ont précisé qu'une aile de la prison a même été libérée depuis pour placer à l'isolement dans des cellules individuelles d'autres détenus qui pourraient présenter les symptômes du coronavirus dans les jours, les semaines qui viennent. Des syndicats qui demandent désormais d'être prévenus en temps réel d'une hospitalisation pour des doutes sur la santé d'un détenu, car en prison c'est plus difficile pour appliquer des mesures barrières, il y a des palpations obligatoire, d'où certaines inquiétudes sur les stocks disponibles de gants et de masques notamment.
Les explications d'Emmanuel Leclerc. Alors comment combattre le virus une fois infecté? Ce matin, le ministre de la Santé a mis en garde contre l'automédication et notamment le recours aux anti-inflammatoires comme l'ibuprofène. Olivier Véran est neurologue de formation. Il insiste sur le fait que la prise de ce type de médicament peut aggraver les symptômes. Décryptage du mécanisme de ces anti-inflammatoires avec le docteur Audi Lenay, elle est infectiologue à l'hôpital Cochin.
Quand vous êtes infecté, donc quand vous avez un virus qui arrive dans l'organisme, vous avez la mise en jeu d'un système inflammatoire qui en fait reconnaît ce virus comme étant quelque chose de potentiellement dangereux pour votre organisme et qui va en fait permettre de lutter contre cette infection. Donc si vous inhibez cette réponse avec ces anti-inflammatoires, on peut très bien comprendre que la réponse qui devrait permettre de contrôler l'infection ne va pas se mettre en jeu, ou en tous les cas va se mettre en jeu, mais avec un degré moindre, que votre infection va être facilitée. Dans ce cadre de cette infection, c'est en fait des pneumonies, donc des atteintes du parenchyme pulmonaire, du poumon lui-même, par le virus. Et si notre système immunitaire est inflammatoire, donc en l'occurrence, est inhibé par des anti-inflammatoires, eh bien le virus va pouvoir se multiplier plus facilement et entraîner des atteintes pulmonaires plus graves.
Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin. Alors, la peur du Covid-19 va-t-elle peser sur le scrutin des municipales? Près de 48 millions d'électeurs sont appelés demain à élire, environ 500 000 conseillers municipaux et autres maires. Un vote pour lequel des mesures de précaution inédites ont été prises. Marquage au sol pour éviter une trop grande proximité des électeurs, possibilité de se laver les mains avant et après avoir accompli son devoir citoyen. Et le chiffre de l'abstention sera d'autant plus important, Maxence Lambrecq, que les municipales sont en temps normal plébiscitées par les électeurs.
Une abstention en général beaucoup plus faible que lors des autres scrutins locaux. C'est après la présidentielle, l'élection préférée des Français. Deux tiers des électeurs se mobilisent en moyenne. Il y avait en 2014 36% d'abstention au premier tour. À l'issue du scrutin, il y aura moins d'élus qu'en 2014. Près de 1800 communes ont disparu depuis en fusionnant avec leurs voisines. Il y en a désormais un peu moins de 35 000 en France. Au municipal, la parité est obligatoire sur les listes, mais dans trois quarts des communes, c'est un homme qui est en tête de celle-ci et brigue donc la mairie. Aujourd'hui, seuls 17% des édiles sont des femmes. S'ils ou elles sont élus, ils ne toucheront rien, pas un euro. Dans 80% des communes, le maire est bénévole. Dans les villages de 1 000 à 3 500 habitants, l'indemnité vient d'être revalorisée de 320 euros pour atteindre 2 000 euros bruts par mois. Et ensuite, évidemment, plus la commune est grande, plus l'indemnité est élevée. Cette année, dans une centaine de villages, il n'y a malheureusement aucun candidat. Ces communes seront donc placées dès la semaine prochaine sous la tutelle de leur préfecture.
Et soirée spéciale municipale à suivre sur France Culture à partir de 19h45 demain. Et malgré l'interdiction de la préfecture de police de Paris et le risque de propagation du Covid-19, environ 400 gilets jaunes se sont rassemblés ce midi dans la capitale. 34 personnes ont été interpellées. À l'étranger, le Maroc va finalement permettre aux ressortissants français de regagner l'Hexagone. Des avions vont pouvoir décoller bien que Rabat ait initialement suspendu toute liaison aérienne et maritime avec la France et l'Espagne. Et direction justement Madrid. Madrid, ville fantôme où quand la peur couplée aux consignes sanitaires immobilise une nouvelle capitale en Europe, deuxième pays le plus touché par le Covid-19 après l'Italie, déjà mise au ralenti, l'Espagne pourrait décréter l'état d'alerte cet après-midi. Le dernier bilan fait état de 1500 nouveaux cas, de 182 morts. Un véritable bond du nombre de personnes infectées, d'où le Conseil des ministres exceptionnel de ce samedi à Madrid. Marie-Hélène Ballesteros, vous êtes la correspondante de Radio France dans la capitale espagnole. Si les mesures tardent à être annoncées, c'est que l'exécutif n'arrive pas à se mettre d'accord.
Oui, c'est bien ça. En fait, on attendait la comparution du chef du gouvernement Pedro Sanchez à 14h, puis à 15h, mais à cette heure-ci, eh bien, toujours rien. D'après le quotidien El País, les divergences entre ces ministres socialistes et ceux de Podemos sont en train de compliquer la situation. Des différences de point de vue en ce qui concerne les mesures économiques à adopter. Alors, toujours d'après El País, les ministres de Podemos exigent des aides aux travailleurs beaucoup plus fortes pour tous ceux qui vont se retrouver au chômage ou sans travail à cause de cette crise sanitaire. Et concernant les mesures de restriction, même si elles n'ont toujours pas été annoncées de façon officielle, on sait déjà, selon les médias espagnols, qu'elles entreront en vigueur lundi prochain à 8h du matin. Le premier objectif est de limiter la circulation des personnes aux déplacements indispensables, c'est-à-dire l'achat d'aliments, de médicaments, de produits de première nécessité, mais aussi les déplacements vers un centre médical ou vers le lieu de travail ou le domicile, ainsi que l'assistance aux personnes âgées ou handicapées. Alors, c'est toute une batterie de mesures qu'on devrait connaître cette fin d'après-midi. Et en attendant, eh bien, la police a déjà commencé à intervenir sur le terrain, car beaucoup de Madrilènes, malheureusement, n'ont pas.
Nous avons un petit souci de liaison avec Marie-Hélène Ballesteros qui était en direct de Madrid. En Grande-Bretagne, le gouvernement conservateur s'apprête lui aussi à prendre des mesures radicales contre, comme l'interdiction par exemple des rassemblements de masse. Outre-Manche, le bilan s'établit désormais à 21 morts et plus d'un millier de cas détectés. En un jour, le nombre de décès a donc quasiment doublé. Quant au fait que les Britanniques et les Irlandais soient encore autorisés à atterrir sur le sol américain, Donald Trump vient d'annoncer que cette exception européenne serait caduque à compter de mardi matin. Le président américain a aussi indiqué qu'il n'avait pas encore les résultats du test de Covid-19 auquel il s'est soumis. Et puis en Iran, le bilan fait état aujourd'hui de 611 morts, soit 97 de plus qu'hier. Et au Danemark, un premier décès lié au Covid-19 a été recensé aujourd'hui. Le patient avait 81 ans. Retour en France avec Nathalie Péchala qui succède à Didier Gayaguet après le scandale de l'affaire de Sarah Abitbol. L'ex-championne de patinage artistique a été élue aujourd'hui à la tête de la Fédération des sports de glace. Elle avait rédigé avec d'autres sportifs une tribune pour que les violences sexuelles cessent d'être un tabou dans le monde du sport. La météo pour demain matin. Du gris de la Vendée aux Ardennes avec des pluies éparses sur le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Quelques passages nuageux sur la Charente-Maritime, la vallée du Rhône, le Roussillon et la Corse. Ailleurs, le ciel sera dégagé. Le tout avec des températures en hausse entre 7 et 10 degrés sur la moitié nord en milieu de matinée et entre 9 et 15 degrés sur la moitié sud.